France Info.
Bonsoir à tous. Dans votre entreprise, on dit peut-être team building. Si vous êtes étudiant, c'est plutôt week-end d'intégration. Chez Emmanuel Macron, c'est séminaire de cohésion pour les députés de La République En Marche, comme dans une start-up finalement, une start-up où l'unité est pour l'instant sans faille. Mais l'opposition finira-t-elle par venir de l'intérieur? On va en parler avec nos informés ce soir. Guillaume Goubert, directeur de La Croix, bonsoir.
Bonsoir Simon.
Laurent Guez, directeur de la rédaction du Parisien Magazine, bonsoir.
Bonsoir Simon.
Alban Micosi, directeur, rédacteur en chef adjoint du service international de France 2. Bonsoir Alban.
Bonsoir.
Et Eugénie Bastier du Figaro et de la revue Limite. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans les informés. Il a tiré les leçons du quinquennat de François Hollande, Emmanuel Macron. Il a vu les frondeurs et l'opposition de l'intérieur. Il n'en veut pas chez lui. Les 308 députés de La République En Marche réunis ce week-end en séminaire de formation seront disciplinés, en tout cas jusqu'à ce que des courants différents, peut-être divergents, apparaissent au sein de La République En Marche. Ça finira bien par arriver, Eugénie Bastier.
On verra. Après, c'est vrai que la cohérence idéologique d'En Marche est assez forte. C'est-à-dire que ce sont des gens quand même qui se retrouvent sur beaucoup d'idées essentielles, notamment le libéralisme politique et économique. Et donc on ne voit pas très bien où pourraient se situer les nuances et les points de divergence fondamentaux et les différents courants à l'intérieur du parti. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est dans cette espèce de volonté de former les élus, est intéressant parce qu'on voit vraiment l'introduction d'une culture managériale à l'Assemblée, donc directement inspirée par Emmanuel Macron et son expérience.
Je faisais la comparaison avec une start-up.
Voilà, exactement, et avec cette ambition d'être efficace à tout prix, et finalement c'est un peu le paradoxe, c'est que d'un côté on nous dit finalement on va faire venir des gens de la société civile pour déprofessionnaliser la politique, pour en faire quelque chose. On dit que la politique n'est pas un métier, il faut qu'il y ait des gens de la société civile. Et en même temps, on assiste à une hyper-professionnalisation de la politique avec des gens en fait, qui font partie d'une élite, sont tous très très diplômés. Souvent, les députés En Marche, ce sont des gens très diplômés, qui ont des expertises dans le domaine professionnel. Donc, on va peut-être avoir justement des députés hyper-professionnalisés, très techniques, très pointus. Et on a du mal encore à imaginer ce que ça va donner concrètement.
Vous avez le sentiment, Laurent Guez, qu'avec ce genre de séminaire de formation, on cherche à gommer, à aplanir les différences?
Je pense que les différences ne sont pas encore apparentes et elles ne viendront que bien plus tard. À mon avis, il faudra du temps pour que peut-être des voix commencent à se contredire. En tout cas, je parle des députés, parce qu'au sein du gouvernement, ça viendra beaucoup plus vite, probablement. Effectivement, ça ressemble à du team building, même si on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans ce séminaire où j'ai l'impression que l'obsession du pouvoir, c'est que ces nouveaux venus ne fassent pas de cacophonie, justement. Et donc, plus on éloigne les journalistes, plus on évite ce genre de choses.
C'est la politique depuis le début du quinquennat.
Absolument. Mais en
communication
plus, peut-être,
ultra maîtrisée.
Vis-à-vis de ces nouveaux, puisqu'il n'y a que 23 sortants, je crois, sur les 308 nouveaux députés En Marche. Non, la comparaison que vous faites avec le privé me semble intéressante. Souvent, cette comparaison, elle est faite un peu en ironisant, c'est-à-dire... En gros, ça serait bizarre de plaquer des méthodes managériales sur la politique qui est beaucoup plus noble. Moi, je crois que la question de la noblesse est complètement dépassée. Il y a des questions, en revanche, d'efficacité. Dans l'entreprise, il y a des choses qui sont inefficaces, mais globalement, c'est le critère, toujours. Et ben Macron, je pense qu'il essaye de mettre ce critère en tête. Et sur ce point-là, on ne peut pas lui en faire reproche, à mon avis.
J'en reviens à la question de l'unité, Guillaume Goubert. Est-ce qu'une formation à un groupe de 308 députés, plus 42, même si on compte les députés MoDem, peut faire bloc pendant 5 ans?
Pendant 5 ans, c'est peu probable. Effectivement, il faut s'arrêter une seconde, une fois de plus, sur ce côté complètement inouï d'avoir un nouveau groupe parlementaire de 308 députés, dont 90% n'ont jamais siégé auparavant à l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment un groupe de bleus, si vous me passez l'expression. Et l'enjeu de la formation est important. On a beaucoup dit ces derniers temps que la déconfiture du Parti socialiste ou même des Républicains venait en partie du fait que ces partis avaient complètement abandonné la dimension formation qui a classiquement été un des rôles des partis politiques. Si En Marche s'attelle d'une manière un peu méthodique, y compris avec des méthodes venues du secteur privé pour former les membres de son groupe, je pense que c'est plutôt utile. Mais de là à dire que ça va durer 5 ans, je pense pas quand même.
L'opposition finira bien par venir de l'intérieur, comme dans un parti unique. C'est ce que nous disait un politologue qui était invité tout à l'heure de France France Info, Alban Micosi.
On peut l'imaginer, mais ce qui est important, si on regarde, c'est par exemple ce qui se fait juste chez nos voisins, ces dispositifs de formation, moi je suis surpris qu'on soit surpris, ils existent. Par exemple, chez les conservateurs, les Tories, à chaque fois, vous savez qu'une fois qu'on est battu aux élections britanniques, on ne se représente pas. Donc, mathématiquement, il y a beaucoup de nouveaux à chaque scrutin, et les Tories ont ça depuis longtemps, cette formation à l'intérieur du parti. Et ceux qui regrettent de ne pas l'avoir, c'est le mouvement 5 étoiles en Italie, qui n'a formé aucun de son personnel. Et on arrive aujourd'hui à des situations totalement ubuesques, comme celle de la mairie de Rome, où plus personne ne gère rien. Donc, au final, pourquoi pas ? Pourquoi pas former ces nouveaux élus, d'abord au discours politique, à la communication, parce qu'on a pu voir que dans certains cas, c'était pas extraordinaire, et leur donner les grandes lignes du parti pour qu'il y ait une cohérence dans l'action.
Eugénie Bastier.
Oui, enfin, vous avez raison, mais déjà, il faut relativiser quand même l'aspect renouvellement. C'est vrai qu'il y a un turnover inédit depuis la Libération, c'est-à-dire que le taux moyen de renouvellement de l'Assemblée est de 48%, là, c'est 75%. Mais si on regarde de plus près, d'ailleurs, le politologue Luc Rouban avait donné une interview au Figaro très intéressante à ce sujet, si on regarde de plus près les catégories socioprofessionnels des nouveaux élus en marche, on se rend compte qu'il y a seulement un tiers de véritablement novices. Il y a beaucoup de conseillers, beaucoup d'élus locaux, des gens qui avaient plus ou moins un rapport avec la politique, donc ce sont pas non plus des puceaux politiques. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a quand même, c'est des gens qui avaient des rapports avec la politique. Et moi, je m'inquiète parce que finalement, bon, les partis politiques ont toujours été un laboratoire de formation, notamment idéologique, notamment à l'extrême gauche, évidemment le Parti communiste, etc. On formait vraiment des militants qui avaient une colonne vertébrale idéologique. Et là, je m'inquiète parce que, peut-être qu'une gestion seulement technicienne des problèmes, finalement, conduirait justement à mettre de côté les idées qui m'apparaissent quand même encore importantes pour structurer notamment le champ politique et les clivages idéologiques. Et je crois que, par exemple, au Parti socialiste, il y avait des frondeurs, certes, mais il y avait vraiment une vision du monde différente de la vision de François Hollande, très libérale. Donc, il y avait vraiment des clivages de fond qui se posaient. Et là, je crains qu'on apprenne finalement qu'on forme des sortes de techniciens de la politique sans finalement de rapport de distance avec des idées.
Alors ce week-end de séminaire pour les députés de La République En Marche a permis aussi d'élire Richard Ferrand à la tête du groupe à l'Assemblée, élu à la quasi-unanimité et à main levée. Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que finalement c'est de la politique à l'ancienne ? On va en parler dans les informés juste après l'info à 20h10 avec Diane Ferchit.
Le MoDem a élu aujourd'hui son chef de file à l'Assemblée nationale. Marc Fesneau, député du Loir-et-Cher, l'emporte à l'unanimité des 42 votants. Il était le seul candidat en lice après la renonciation de l'ex-ministre Marielle de Sarnez. Celle-ci devrait être désignée comme future présidente de commission. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, déclaration de Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement ce dimanche. Il précise également que rien n'est arrêté concernant la fiscalité du diesel. Des déclarations qui viennent contrebalancer celles du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Hier, il a estimé qu'il fallait prendre immédiatement des décisions difficiles pour respecter les 3% de déficit budgétaire. Un feu de forêt hors de contrôle a atteint le parc naturel de Doñana dans le sud de l'Espagne. Plus de 1500 personnes ont dû être évacuées des campings, des hôtels et de leurs résidences dans cette zone. Les pompiers sont à pied d'œuvre pour tenter de contenir l'incendie, une lutte contre le feu compliquée par le vent et les très fortes chaleurs. En Turquie, la police d'Istanbul a fait usage de balles en caoutchouc aujourd'hui pour empêcher la Gay Pride de se tenir. Les autorités ont annoncé hier que l'événement était annulé. Les organisateurs de cette marche des fiertés souhaitaient la maintenir. C'est la troisième année consécutive que la Gay Pride est interdite à Istanbul. La France affronte l'Espagne ce soir en finale de l'Euro de basket à Prague. C'est la troisième fois que les braqueuses se retrouvent à ce stade de la compétition. Et elles comptent bien renouer avec le succès, d'autant plus que c'est le dernier match en équipe de France pour la capitaine Cécile Dumerc. Coup d'envoi de cette rencontre à 20h30.
France Info. 20h, 21h, les informés, Simon Le Baron.
Nous parlions de l'unité de La République En Marche à l'Assemblée nationale. C'est Richard Ferrand qui sera donc le garant de cette unité sur les bancs de l'hémicycle, puisque l'éphémère ministre de la Cohésion des Territoires a été élu par ses collègues à la tête de son groupe. Vote à main levée, à l'unanimité, moins deux abstentions. Il faut dire que Richard Ferrand était le seul candidat désigné par le président de la République comme un relent de vieille politique. C'est ce qu'estime le socialiste Mathias Fekl, ancien ministre de l'Intérieur et candidat battu aux législatives.
Quand l'acte de naissance politique d'un groupe parlementaire, c'est de voter à main levée, quasiment par acclamation, pour quelqu'un qui a été prédésigné par le chef de l'État, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière d'installer un parlement dans lequel il va y avoir des débats fructueux et une pluralité vraiment très intéressante.
C'était dans Questions politiques ce midi sur France Inter et France Info dans ce même studio. Vous êtes d'accord? Ça fait un peu politique à l'ancienne, Laurent Guez. On est loin du renouvellement des pratiques promis par Emmanuel Macron.
Oui, l'ambiance est bonne. On a envie d'être avec, dans le sens comme ça de ce nouveau président et tout. Et moi, j'attends beaucoup de choses positives. J'ai pas envie d'être celui qui ronchonne. Mais on voit des petites choses comme ça et on se dit, est-ce que c'est des petites choses qui vont rester modeste, et puis on va les oublier, ça va être balayé par peut-être les succès du nouveau président, ou est-ce qu'on a les prémices d'annonciateurs de mauvaises pratiques? Il y a des petites choses comme ça. Par exemple, le fait d'avoir choisi l'hôtel de Lassay pour faire ce séminaire dont on ne sait pas grand-chose, sinon l'élection de Richard Ferrand, je crois que c'est pas très élégant.
L'hôtel de Lassay, c'est un bâtiment qui est mitoyen au Palais Bourbon, et c'est la résidence du président.
C'est la résidence du président de l'Assemblée, on ne sait pas encore qui est le président de l'Assemblée, ça n'appartient pas à La République En Marche. Bon, enfin, c'est une bricole, mais c'est petites choses comme ça qui posent question. Plus lourd, alors beaucoup plus lourd, bien sûr. Richard Ferrand, si on l'exfile du gouvernement parce qu'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe?
Il est visé par une enquête, on le rappelle, pour un montage immobilier qui date de l'époque où il était directeur des mutuelles de Bretagne.
On peut discuter de, est-ce qu'en ce moment on est un peu trop regardant, est-ce que la transparence devient dictatoriale, on peut avoir tous ces débats. En tout cas, il a été décidé de le sortir du gouvernement. Ce poste-là, avec un groupe majoritaire, le groupe La République En Marche, il est hautement stratégique, politique. S'il n'était pas bon pour le gouvernement, il est encore moins bon là. Je ne comprends pas.
Guillaume Goubert.
Moi,
je fais exprès de dire que je ne comprends pas, même si je comprends.
Est-ce que vous comprenez, Guillaume Goubert?
Sur le dernier point, je ne suis pas d'accord. Je pense que, bon, déjà, Richard Ferrand a annoncé qu'il se rendrait aux convocations de la justice. Il doit répondre d'une enquête préliminaire. Il n'est pas encore mis en examen. Moi, je m'inquiète un peu, ça vaut aussi pour Marielle de Sarnez. De cette évolution qui fait qu'aujourd'hui, on est en quelque sorte interdit professionnel dans la politique si, comme on disait à une certaine époque en Allemagne, si on est s'il y a une enquête en cours.
Donc, c'est ce qu'a dénoncé François Bayrou cette semaine. Il disait à une époque, on était tenu de démissionner si on était condamné en appel, après en première instance, puis mis en examen, et désormais simplement visé par une enquête.
Et en plus, là, il quitte le gouvernement, mais il n'aurait pas le droit non plus de présider le groupe. Donc voilà, moi, je trouve que ça mérite quand même
Mais pourquoi il y aurait une différence entre les deux?
Parce que être membre du gouvernement de la République, c'est pas tout à fait la même chose que d'être en charge d'une...
J'aime beaucoup le pouvoir législatif, je le respecte tout autant que l'exécutif, personnellement.
Eugénie Bastier. Mais je suis d'accord avec vous. Personnellement, je suis pas absolument sûr que c'était une bonne idée qu'il quitte le gouvernement. Mais je veux dire, dès lors qu'il acceptait de répondre de ses actes. Par contre, je suis assez d'accord avec le côté un peu. Ça rappelle des souvenirs qui viennent peut-être d'autres parties de l'Europe, à d'autres époques, de ce vote à main levée massif, juste deux abstentions. Alors j'aimerais bien savoir qui sont les deux personnes qui se sont abstenues. Ça doit être des personnes extrêmement intéressantes. En même temps, Richard Ferrand, il a quand même une certaine légitimité parlementaire. Donc voilà.
Eugénie Bastier.
Oui, moi ce qui me frappe, c'est la relative indulgence dont bénéficie Richard Ferrand. Enfin, c'est-à-dire que finalement, ce sont des gens qui sont arrivés au pouvoir finalement sur une victoire morale, en fait, sur François Fillon notamment, qui était présenté comme le salaud, le traître, tout le représentant de ce vieux monde politique qui convenait de vouloir démolir. Et finalement, on se rend compte que il y a des continuités, et ces continuités-là restent finalement intouchables. Et c'est vrai que ça choque énormément des lecteurs, et notamment des lecteurs de droite, le maintien de Richard Ferrand, et notamment, qui est quand même une récupération plutôt prestigieuse, parce que président d'un groupe, c'est quand même pas rien. C'est assez important. Ça, d'une part, et de l'autre, l'unanimisme, on en parlait tout à l'heure, du groupe En Marche, moi, m'inquiète, parce que je pense que c'est important qu'il y ait c'est important pour la vitalité démocratique et des débats à l'intérieur même des partis. Aux Républicains, ça existe entre une ligne libérale conservatrice et une ligne plus étatiste. À gauche, ça existait aussi. Et là, cette espèce de vision extrêmement consensuelle.
Mais vous parlez des électeurs de droite, Jenny Bastier. Les électeurs, le cœur de l'électorat des Républicains a soutenu François Fillon et a voté à 20% pour lui au premier tour de la présidentielle.
Non, mais je parle juste d'une indignation qui peut monter dans le pays, notamment à droite, et aussi d'ailleurs à gauche, à l'extrême gauche. Mais c'est ce genre de il y a un côté tartuffe, quoi, que les gens ne supportent pas, et d'ailleurs que Fillon a payé et que aujourd'hui Bayrou et Ferrand payent.
L'élection de Richard Ferrand à la tête du groupe La République En Marche, Alban Nicosi, va à l'encontre de la volonté affichée de moraliser la vie politique.
Je suis un tout petit peu plus indulgent parce que c'est vraiment tout récent. Ce qu'on va dire, quel est à quoi on peut comparer le groupe des amis d'Emmanuel Macron aujourd'hui au Parlement. On peut le comparer finalement au PS en 81. Il y a 30% de gens. Là aussi, il y avait 30% de gens qui n'avaient aucun rapport avec la politique. Des
D'ailleurs,
gens qui étaient
puisque
assez
vous
loin,
faites cette
à qui
comparaison,
on faisait des...
Emmanuel Macron a dit à Richard Ferrand, je veux que tu sois mon Pierre Joxe, qui a été ministre pendant un mois et qui a pris la tête du groupe PS, qui était largement majoritaire
à
l'Assemblée en 80.
Voilà exactement où je voulais en venir. Emmanuel Macron ne connaît pas, la moitié des élus de son groupe, du groupe. Et c'est normal finalement qu'il s'adresse à un très proche pour diriger ce groupe. Alors j'entends bien tous les reproches moraux qu'on peut lui faire. Il n'empêche que je pense que le président a besoin d'un homme de confiance, qu'ils ne sont pas si nombreux à avoir une expérience longue du Parlement, une expérience longue de ce qu'est la fonction de chef d'un groupe politique majoritaire. Donc ce choix, il est logique. Je le comprends politiquement.
Laurent Guez, on en revient à ce que vous disiez, vous le comprenez finalement.
Non mais voilà, on a toutes les raisons, quand on a un peu de métier, de le comprendre. Et puis on apprend aussi que les grands hommes sont souvent dans le gris et pas dans le noir ou blanc. Donc voilà, on va se faire une raison. Moi, j'avais plutôt l'idée, ou plutôt envie, que ce nouveau régime ne fasse pas des choses un petit peu subtiles comme ça et soit plus clair. C'était d'ailleurs ce qui était affiché. C'est encore possible. Hein.
Donc on reste dans...
ce qu'il lui reprochait, c'est pas rien du tout, quand même. Il ne l'a pas nié. Parce que c'est pour ça que l'histoire de « il n'est pas encore mis en examen » et tout ça, c'est tout à fait vrai, je suis tout à fait d'accord. On va de plus en plus loin et c'est dangereux, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. En revanche, quand les gens n'ont pas nié quelque chose, donc il n'y a pas de sujet sur est-ce que sa compagne s'est enrichie, etc.
Mais la justice va continuer à travailler, peut-être.
Je ne parle pas du tout du droit, c'est probablement légal, j'en sais rien. C'est probablement légal ce qui a été fait. Simplement... C'est pas correct. Personne d'entre nous ne ferait ça, d'avantager sa compagne qui achète un bien pour le louer à la mutuelle qui va lui faire un patrimoine de 500 000 euros à la fin de l'histoire. Personne ne fait ça.
C'était assez répandu. Simplement, c'était quelque chose que justement tout le monde faisait. Mais simplement, Macron a quand même gagné sur la vertu. Et c'est très compliqué ensuite de durer là-dessus parce que le moindre faux pas est impardonnable et l'affaire Ferrand l'a montré.
Marielle de Sarnez, de son côté, elle était pressentie pour prendre la tête du groupe Modem à l'Assemblée. Elle a annoncé au dernier moment, on en parle dans moins de 2 minutes dans les informés. 22h20, d'abord le tour des dernières infos avec Diane Ferchit.
Au moins 1500 personnes évacuées en Espagne en raison de violents feux de forêt dans le sud du pays. La région est en état d'alerte à la canicule. Le feu s'est déclaré hier soir. 11 avions, 10 hélicoptères et une douzaine de véhicules de pompiers de l'armée sont mobilisés. Les flammes menacent actuellement le parc national de Doñana. Martin Schulz s'attaque frontalement à Angela Merkel ce dimanche. Le social-démocrate accuse la chancelière allemande d'arrogance et de saper la démocratie. Alors que son parti, le SPD, était en congrès à Dortmund aujourd'hui, Martin Schulz a tenté de relancer sa campagne en vue des législatives. Elles se tiendront en septembre prochain, des législatives pour lesquelles les sondages prédisent une large victoire d'Angela Merkel. 2 personnes tuées, une autre portée disparue ce soir et 6 blessés au large de la Réunion. Leur bateau a chaviré à l'entrée du port de Saint-Gilles dans l'ouest de l'île. En cause de la forte houle, les sauveteurs ont dû arrêter leurs recherches pour la nuit. Marc Fesneau a été élu aujourd'hui président du groupe Modem de l'Assemblée nationale. Il a emporté les 42 voix des députés centristes lors d'un vote à bulletin secret. Âgé de 46 ans, Marc Fesneau est député du Loir-et-Cher. Il était le seul à abriguer la présidence du groupe après l'abandon de l'ex-ministre Marielle de Sarnez. Et puis en cyclisme, Arnaud démarre champion de France ce dimanche. C'est la deuxième fois de sa carrière que le coureur de la FDJ décroche ce titre. Il l'a emporté au sprint à Saint-Omer devant Nasser Bouhanni et Jérémy Leveau. Arnaud démarre qui portera donc le maillot bleu-blanc-rouge sur le Tour de France cet été.
France Info. 20h, 21h, les informés, Simon Le Baron.
Vous l'avez entendu, Marielle de Sarnez a donc renoncé à prendre la présidence du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Elle va briguer la présidence d'une commission, sans doute la prestigieuse commission des affaires étrangères de l'Assemblée. Alban Micosi, c'était trop risqué pour Marielle de Sarnez, 4 jours après son départ du gouvernement en raison de l'enquête qui vise son parti.
En tout cas, c'est une procédure compliquée, on va en parler, je pense, abondamment. La procédure qui vise le Modem est une procédure qui a un sens judiciaire et qui a aussi un sens politique. On va finir peut-être sur Richard Ferrand. En fait, qu'est-ce qu'on reproche à Richard Ferrand? Du favoritisme et puis aussi une atteinte au code des mutuelles. Alors, je discutais avec un magistrat en charge, justement, dans une région voisine, parce que je ne pourrais pas discuter avec le magistrat en charge du dossier. Et il me disait, va déjà falloir qu'à Brest, il trouve un magistrat compétent en code des mutuelles. Ça va déjà être une opération intéressante.
Oui.
Derrière, il va y avoir, on va l'entendre, ça va prendre des mois. On ne sait pas réellement, au moment où je vous parle, si ce qu'il a fait est du domaine de ce qui peut être puni ou ce qui va être classé. On n'en sait absolument rien. Pour le MoDem, ce n'est pas pareil. Pour le MoDem, on est devant un processus politique qu'on a connu, que d'autres partis ont utilisé, et là où, en revanche, on sait dire le droit. Et Marielle de Sarnez a pensé, probablement aidée par les cadres du MoDem, que cette situation allait être vraiment très délicate et c'est une situation qui va la conduire à des actes judiciaires lourds et nombreux. Dans ce cadre-là, être à la tête d'un mouvement politique, c'est difficile.
Guillaume Goubert.
Je ne sais pas dans ce cas-là si elle peut être à la présidence d'une commission parlementaire, ouais. Si j'entends ce que disent mes confrères. C'est vrai qu'elle a publié un texte sur Facebook assez dur, où elle dit des choses.
Qu'elle a vécu les semaines les plus tristes de sa vie politique.
Exactement. Est-ce qu'elle va pouvoir prendre une présidence de commission? Je ne sais pas. La même logique devrait s'appliquer. Moi, si je j'entends bien les arguments, mais il se trouve que j'ai vécu quelques années en Italie et j'ai vu ce qui s'est passé après Main Propre, qui a été une grande opération comme ça. Et ça a débouché sur Berlusconi. Je veux dire, si on élimine au nom de critères qui, encore une fois, méritent d'être évalués, jugés, etc., simplement sur une espèce d'emballement général, pas seulement médiatique, on va éliminer beaucoup de gens qui sont tout à fait compétents et on risque de se trouver avec des choses qu'on n'aura pas souhaitées. Donc je pense que ça vaut le coup de réfléchir et d'essayer de faire preuve de plus de discernement.
C'est ce que vous pensez aussi, Jenny Bastier?
Oui, c'est très intéressant parce que justement on publie dans le Figaro demain une tribune de Marc Lazare, donc un politologue spécialiste de l'Italie, qui compare En Marche justement au mouvement Forza Italia de Berlusconi, qui s'est créé justement à la fin des années 90, enfin juste après l'opération manipulité, main propre, et qui finalement a désingué tous les partis en place. Et après, on a eu Berlusconi, et il comparait aussi En Marche au parti Cinque Stelle de Pepe Grillo. Bien sûr que c'est pas du tout les mêmes idéologies, mais il y a quelque chose de ces mouvements, grands mouvements politiques qui sont hyper personnalisés et qui tiennent sur un leader particulier.
C'était juste une parenthèse. Avant tout, le ras-le-bol des électeurs qui a dégagé, comme vous dites,
les partis politiques. Oui, voilà, mais c'est ça, une grande vague dégagiste qui aboutit pas forcément. C'est-à-dire le renouvellement pour le renouvellement. Il y a aussi un espèce de populisme du renouvellement qui consiste à dire parce que c'est nouveau, c'est mieux. C'est l'iPhone 7. Pas forcément. La politique, c'est pas comme l'iPhone, quoi. C'est pas parce que c'est neuf que c'est mieux. Il y a beaucoup de députés très compétents qui étaient ancrés localement, qui faisaient bien leur boulot, qui ont été balayés par la vague En Marche, par des gens qui sont parfois, qu'on peut considérer un peu comme des opportunistes également, très jeunes, des gens qui viennent du MJS ou des jeunes de la droite. Il faut pas non plus. Après, sur l'affaire Marielle de Sarnez et Bayrou, je crois quand même qu'ils s'en sortent plutôt pas mal, puisque le MoDem a quand même quadruplé son nombre de parlementaires, puisqu'ils sont passés de 2 à 42. Et il y a quand même eu. Le MoDem sort quand même renforcé de cette. De cette séquence politique d'une façon que même Bayrou, dans ses rêves les plus fous, n'aurait jamais imaginé. Et il y avait une jolie formule de Gilles Boyer dans la revue Charles, où il faisait un portrait de Bayrou, Gilles Boyer, donc proche d'Alain Juppé, où il disait à la fin, il a cette formule que je trouve pas mal, il dit finalement, Bayrou est un des rares hommes politiques qui a remporté une victoire posthume de son vivant. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il a gagné, Macron a réalisé ce qu'il aurait rêvé de faire, et aujourd'hui, c'est vrai que ça doit être assez amer pour lui, puisque finalement, il est dégagé à lui aussi.
Il a toujours le bon mot, Gilles Boyer, c'est vrai, sur les réseaux sociaux aussi, mais ça pose la question tout de même, Laurent Guez, de la place du MoDem désormais dans la majorité, même si le MoDem reste allié d'Emmanuel Macron. Est-ce que son poids n'a pas baissé malgré ses 42 députés?
Alors, si le poids est lié à la notoriété de ses représentants, il a diminué, mais en nombre, je crois que le président a maintenu les équilibres. On a Marc Fesneau, par exemple, qui est très proche de Jacqueline Gourault, qui était sénatrice, qui est maintenant ministre auprès du ministre de l'Intérieur, et qui est une bayrouiste pure jus, si je puis dire. Donc les équilibres sont là, les gens sont pas exactement de la même puissance, de la même stature politique.
Mais je voudrais juste redire un mot sur ce qui est reproché à Marielle de Sanez et puis sur son petit post Facebook où on peut comprendre sa tristesse. Elle dit « ça aurait dû être les plus belles heures de ma vie et c'est les plus tristes, etc. » Bon, on va pas sortir les violons quand même, mais on va regarder ce qui se passe. Et moi, je suis quand même interloqué par une chose, c'est-à-dire... est-ce que ce qui se passe au MoDem se passe seulement au MoDem? C'est la seule question qui m'intéresse. Si c'est partout pareil, c'est pas la même chose.
C'était la conclusion de cette première partie des Informés. Vous restez avec nous, Laurent Guez, Guillaume Goubert, Alban Micosi, Eugénie Bastier. Les Informés continuent et reviennent dans 5 minutes. En attendant, un petit point sur l'info, évidemment. Il est 20h28, à tout de suite.
France Info Trafic avec VTrafic, service d'information trafic routier en temps réel sur GPS, smartphone et sur v-trafic.com.
Élise Thibault, PC Circulation de France Info, et des difficultés, Élise, autour de Bordeaux ce soir?
Eh oui, on a un accident en ce moment sur la rocade bordelaise dans le sens intérieur à hauteur de la commune de Bruges qui entraîne 40 minutes de bouchon. Puis dans le secteur, c'est chargé sur la plupart des axes pour rejoindre Bordeaux quand vous arrivez de la côte. On a aussi d'importantes difficultés dans le nord à Valenciennes à cause de travaux sur l'autoroute A2. Vous comptez une heure de ralentissement en arrivant du sud avant de rejoindre Valenciennes, trois quarts d'heure si vous venez de Belgique. Et puis en région parisienne, ça s'améliore un peu, mais ça reste chargé sur la plupart des grandes autoroutes, notamment si vous arrivez du nord par l'autoroute A1.
Merci Élise.
France Info Météo, avec les meubles Gauthier, experts français des petits espaces. Retrouvez toutes nos solutions gain de place en magasin et sur gauthier.fr.
Un temps perturbé sur le sud demain, Jean-Michel Golinski.
Une France littéralement coupée en deux demain, la ligne de partage se situant le long de la Loire. Dans la moitié nord, la journée sera calme et ensoleillée avec possiblement un début de matinée un peu plus gris sur les côtes de la Manche, mais l'évolution sera favorable. Les températures quant à elles reprennent de la hauteur avec 21 à 23 degrés l'après-midi sur les côtes, 24 à Villeneuve-d'Ascq, 25 à Lens, 27 sur la Champagne, 28 à 30 des terres bretonnes au Val-de-Loire et du bassin parisien à la frontière allemande. Dans la moitié sud, les valeurs vont légèrement baisser par rapport à aujourd'hui. Dans une ambiance instable et électrique, les orages arrivant d'Espagne vont rapidement passer les Pyrénées, gagner tout le quart sud-ouest en matinée avant de s'étendre à toute la moitié sud du pays en journée.
Merci Jean-Michel Golinski. Les Informés reviennent dans 3 minutes après l'info, 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Lauriane Delanoë.
Le siège du Parti Socialiste à Marseille n'est pas à vendre. Jean-Christophe Cambadélis dément ce soir dans un communiqué. Le premier secrétaire du PS dénonce des manœuvres spéculatives. Chez les Républicains, Laurent Wauquiez rétorque « Ne laissons pas les médiocres aigreurs nous détourner du seul objectif qui compte », écrit le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur Twitter. Cet objectif, c'est la reconstruction d'une droite fière de ses valeurs. Voilà ce qu'il avait à dire à Xavier Bertrand, le patron des Hauts-de-France, qui expliquait aujourd'hui dans le journal du dimanche qu'il ne briguerait pas la présidence du parti en novembre pour ne pas être responsable d'une nouvelle guerre des chefs. Mais Xavier Bertrand en profitait pour tacler Laurent Wauquiez. Plus de 139 morts, plus d'une centaine de blessés, certains très grièvement. Un terrible accident ce matin sur une autoroute du Pakistan. Un camion-citerne s'est renversé et tout s'est embrasé en un quart d'heure, Michel Picard.
Sur des centaines de mètres, la portion d'autoroute est couverte de carcasses de véhicules brûlés et des centaines d'ustensiles de cuisine noircis. Louches, cuillères et casseroles jonchent les abords des restes du semi-remorque. Il faisait déjà plus de 35 degrés ce matin à Ahmedpour, dans le sud du Punjab, quand un camion-citerne transportant 40 000 litres de carburant s'est couché sur la chaussée. Très vite, des centaines d'habitants alentours ont fait irruption avec des bidons, récipients improvisés et autres gamelles pour tenter de récupérer quelques litres. C'est alors, à peine un quart d'heure après l'accident, qu'une énorme boule de feu, selon les témoins, a embrasé tout sur son passage. L'incendie a duré plusieurs heures et s'est propagé à des dizaines de véhicules bloqués dans l'embouteillage causé par l'accident. Tous les hôpitaux de la région, notamment à Bawalpur et Multan, sont en alerte maximale et reçoivent des blessés gravement brûlés acheminés par des hélicoptères de l'armée. Cette tragédie intervient deux jours après des attentats qui ont fait plus de 60 morts en cette toute fin de Ramadan. Islamabad, Michel Picard, RFI pour France Info.
Des tirs entre Israël et la Syrie aujourd'hui comme hier. L'armée israélienne a frappé des positions du régime syrien, deux postes d'artillerie et un camion de munitions. Elle explique que c'est en représailles aux envois de projectiles par la Syrie sur la partie du plateau du Golan occupée par Israël. Un parc naturel du sud de l'Espagne, le parc de Doñana, est menacé par de violents feux de forêt. Aujourd'hui, plus de 1800 personnes ont quitté les maisons, campings et hôtels du secteur pour fuir les flammes. C'est parti pour la finale de l'Euro de basket féminin entre la France et l'Espagne. Le coup d'envoi vient d'être donné à Prague. Et cette finale sera le dernier match de la capitaine Cécile Dumerc avec le maillot bleu. Il est 20h33 sur France Info. Tout de suite, la suite des informés avec vous, Simon Le Baron.
Les informés, Simon Le Baron.
Nos informés ce soir, toujours Guillaume Goubert, Delacroix, Laurent Guez du Parisien Magazine, Alban Micosi de France 2 et Eugénie Bastier du Figaro et de la revue Limite. Nous parlions tout à l'heure au début de cette émission de l'unité de la République en marche. Tiendra pas, c'est ce que l'on verra au cours des cinq prochaines années. Il y a un parti en tout cas qui s'y connaît en termes de division, c'est le Parti Socialiste. Hier, le Conseil National du PS a défini sa position officielle. Le PS est clairement dans l'opposition à Emmanuel Macron. Les députés ne voteront pas la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe. Mais aujourd'hui, on entend déjà ceux qui ne suivront pas cette ligne officielle. Écoutez le député PS de la Mayenne, Guillaume Garot. Il nous explique sur France Info que lui, il votera la confiance au gouvernement.
Moi, je suis dans un soutien exigeant à Emmanuel Macron. Vous savez, aujourd'hui, les Français, ils veulent qu'on donne sa chance au nouveau président, parce que il y a des défis considérables devant nous, contre le chômage, pour réorienter l'Europe, pour redonner des perspectives à la jeunesse. Et en même temps, un soutien exigeant, ça ne veut pas dire qu'on est dans un chèque en blanc. Pas du tout. Il faudra avoir des débats très approfondis, et moi, je me battrai toujours pour que les valeurs de justice, de lutte contre les inégalités, soient au cœur des politiques publiques et des lois qui seront votées. Pour peser, pour être exigeant, eh bien, il faut d'abord afficher un soutien clair, mais un soutien toujours exigeant, je le répète.
Les députés PS n'arrivaient pas à s'entendre à 295 lors du précédent quinquennat, ils n'arrivent pas à s'entendre à 31 aujourd'hui, Guillaume Goubert.
Oui, c'est assez étonnant. Impressionnant. C'est quand même un indice quand même assez fort de l'état de désagrégation, pour ne pas dire décomposition de ce parti. Ils sont 30 et ils réussissent en gros à se séparer en trois morceaux. C'est à peu près, si j'ai bien compris, 10 chacun, quoi. Entre ceux qui voteront contre la confiance, ceux qui s'abstiendront et ceux qui voteront pour. Et par ailleurs, le parti, au cours de son conseil national, c'était samedi, n'a pas réussi à se mettre complètement d'accord.
C'est-à-dire pas une ligne claire, c'est-à-dire
pas une ligne tout à fait claire.
On ne vote pas la confiance, mais on n'appelle pas à voter contre. Voilà, et donc les députés ne sont pas tenus de se conformer à cette ligne officielle, en plus.
On laisse la porte ouverte au moins à l'abstention, et on ne veut pas discuter de ce qui se passera si quelqu'un soutient le gouvernement d'Édouard Philippe. Donc, non, c'est vraiment assez terrible ce qu'ils sont en train de traverser.
Le groupe PS a-t-il un sens aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Alban Micosi?
Oui, c'est une question. J'aimais bien la manière dont vous en avez parlé tout à l'heure en disant le PS, combien de divisions? Vous avez dit ça, j'ai pensé à Staline qui parlait de l'Église catholique, il disait le Vatican, combien de divisions? Aujourd'hui, si on n'est pas dans un parti politique, mais dans une entreprise privée, une entreprise qui perd 90% de sa clientèle, dont le simple nom prête aujourd'hui à quasiment à rire, qui n'a pas la moindre ligne, est une entreprise en faillite. On ne voit pas aujourd'hui comment le Parti Socialiste peut être porteur de quelque projet que ce soit. Alors après, maintenant, on est en politique. En politique, on a déjà vu des partis qu'on pensait totalement morts réémerger en comptant sur les fautes de l'adversaire.
On peut penser au Labour britannique.
Eh bien, justement, c'est exactement là-dessus que je voulais vous emmener. Moi, je vois Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn, ça fait 32 ans qu'il est élu à la Chambre des communes. Il n'y a pas un Anglais, il n'y a pas un journaliste anglais qui aurait mis, il y a 2 ans, le moindre penny sur Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn, il faisait l'objet de l'hilarité générale. Bon, si Theresa May continue à s'y prendre aussi mal, il n'est pas exclu que dans un mois, dans 2 mois, il soit au 10 Downing Street. Et il y a, donc, en politique, il faut jurer de rien. Mais là, actuellement, le PS, il est inaudible, totalement inaudible, on l'a vu dans cet extrait-là. Et puis, à qui parle-t-il ?
Eugénie Bastier.
Oui, là je crois que ce qui est intéressant, c'est que justement on voit quand même que les idées sont importantes. C'est-à-dire que là où il n'y a pas d'idées, il n'y a pas d'espace politique. Et le gros problème du Parti Socialiste aujourd'hui, c'est que c'est un parti qui n'a pas justement de colonne vertébrale idéologique. Il n'y a pas de moyen de théoriser vraiment un espace politique avec des idées. C'est-à-dire que d'un côté, le libéralisme est extrêmement bien théorisé à En Marche. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, c'est très clair. Et Jean-Luc Mélenchon occupe la frange, on va dire, qui est en hostilité radicale au capitalisme et qui prétend déconstruire et lutter contre le capitalisme. Et donc on a ces deux options-là qui étaient réconciliées de manière artificielle à l'intérieur du Parti Socialiste, mais justement de manière absolument artificielle, c'est-à-dire sans que ça ait été pensé et articulé, alors que le libéral-conservatisme à droite, il est, on peut dire que c'est une contradiction, mais en tout cas c'est une contradiction qui est articulée, pensée, théorisée et qui fait l'objet voilà, d'une véritable réflexion, alors que là, au Parti Socialiste, cette réflexion n'existe pas. Et la question c'est quel créneau peut prendre le Parti Socialiste ? Est-ce que ça peut être le parti finalement du l'espace qu'il leur reste, puisque vu la puissance de la France insoumise, c'est d'être le parti du féminisme et du multiculturalisme en réalité, c'est-à-dire le parti voilà de le parti des autres, le parti de l'autre, on pourrait dire même avec une base progressiste et sociétale, avec des électeurs assez urbains ou alors des intellos précaires à la nuit debout, mais on ne voit pas vraiment comment peut se dessiner véritablement une vraie force de gauche. Et Corbyn, lui, quand même, a récupéré, il fait partie des papiers rouges avec Mélenchon et Bernie Sanders aux États-Unis, mais qui a récupéré justement cette frange d'un populisme de gauche qui aujourd'hui est incarné par Jean-Luc Mélenchon. Mais cette option-là n'existe pas pour Parti Socialiste.
On en revient à la question que je posais tout à l'heure à Alban Micosi. Laurent Guez, est-ce que le groupe PS en tant que tel a un sens aujourd'hui, une fonction, un créneau à l'Assemblée ?
Oh, ils ont répondu par eux-mêmes, je crois. En fait, bon, d'abord, très peu de gens, à mon avis, se posent cette question sur l'avenir du PS, la place du groupe PS. Enfin, je pense que tout le monde s'en fout totalement. Quelques rares personnes qui ont continué à voter pour ce parti-là récemment, mais je pense que c'est sorti du paysage de l'intérêt des gens, franchement. Par ailleurs, je suis pas du tout d'accord avec Eugénie sur le fait qu'il y aurait une cohérence idéologique dans La République En Marche, qu'il n'y aurait pas au Parti Socialiste, ou qu'il y aurait aussi chez les Républicains, on ne sait pas lesquels, là, puisqu'il y en a deux maintenant, il y en a deux sortes. Mais je pense que l'idéologie, elle est surtout présente dans les partis dans les extrêmes. À la France Insoumise, il y a une forme de cohérence idéologique, au Front National également. Je pense que chez les autres, il y a des reliquats d'idéologie, et puis chacun cherche son pragmatisme, et ne le trouve pas beaucoup, en dehors d'Emmanuel Macron, qui, je pense, gagne sur le pragmatisme, beaucoup plus que sur l'idéologie. Rappelez-vous, même le Figaro, pendant des mois ou pendant deux ans, n'a pas arrêté de dire que Macron n'avait pas d'idéologie. Donc c'est bizarre que, dès qu'il est à l'Élysée, tout à coup, Eugénie trouve qu'il a une cohérence idéologique formidable.
C'est-à-dire, c'est le libéralisme intégral, politique.
Absolument pas intégral.
Si, politique,
absolument
économique.
Absolument pas intégral.
Le libéralisme est une idéologie qui avance masquée, puisque c'est une logique qui prétend ne pas en être une. C'est-à-dire en disant, justement, nous sommes les pragmatiques, nous sommes les centristes, nous sommes les gens, finalement, nous ne sommes pas des idéologues. Moi, je pense qu'il y a quand même des profondes traditions politiques derrière. Je crois vraiment à la force des idées. Et peut-être que, justement, c'est pas mis en avant En Marche, parce qu'il y a ce discours sur le pragmatisme, mais il y a quand même une filiation idéologique très forte.
Une minute pour faire le point sur l'info dans Les Informés à 20h41 et le débat continue juste après. Diane Ferchit.
Un homme recherché ce soir en Seine-Saint-Denis. Il a pris la fuite après avoir blessé trois personnes à coups de couteau hier soir. Les faits se sont déroulés dans la salle d'attente des urgences de l'hôpital Robert Ballanger à Villepinte. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour tentative de meurtre. Emmanuel Macron réfléchit à la tenue d'un congrès à Versailles. C'est ce qu'indique Christophe Castaner ce dimanche. Le porte-parole du gouvernement n'a cependant pas donné de date pour cette éventuelle réunion des députés et des sénateurs. Il s'agirait pour le président de la République de donner le cap au Parlement. Christophe Castaner a également rappeler qu'Emmanuel Macron avait promis lors de la campagne présidentielle de réunir le Congrès chaque année. Au moins 140 morts et 80 blessés au Pakistan après l'accident d'un camion citerne d'hydrocarbures. Il a pris feu alors que des riverains s'étaient précipités pour récupérer le carburant sur la chaussée. Les hôpitaux de la région ont été placés en état d'alerte. Il n'y aura pas d'espace mixte homme-femme devant le mur des Lamentations à Jérusalem. Décision du gouvernement israélien aujourd'hui. Il a cédé aux pressions des associations et partis ultra-orthodoxes. Plusieurs mouvements progressifs précise demandait l'égalité des sexes dans l'accès à ce lieu saint du judaïsme. Et puis c'est une course hors norme qui a débuté ce soir de Saint-Nazaire. Elle voit s'affronter un paquebot, le Queen Mary II et quatre voiliers dans une traversée de l'Atlantique. L'événement est baptisé The Bridge, un pont entre la France et les États-Unis pour rendre hommage aux soldats américains venus se battre en France pendant la Première Guerre mondiale.
France Info. 20h, 21h, les informés, Simon Le Baron.
Les députés socialistes divisés, les députés Les Républicains aussi, avec la création d'un groupe dit constructif UDI et indépendant. Est-ce que ça veut dire que La République En Marche d'Emmanuel Macron, Guillaume Goubert, va avoir les mains libres à l'Assemblée nationale?
Là, certainement, un boulevard de ce parti a certainement un boulevard devant lui. Oui, c'est sûr que les à part le groupe Mélenchon qui semble faire preuve d'une grande cohésion, les autres groupes significatifs à l'Assemblée nationale sont très divisés. Oui, effectivement. Donc, d'ailleurs, c'est au passage, en écoutant Eugénie tout à l'heure, je me souvenais comment pendant la campagne Mélenchon a ménagé Macron avec cette idée d'écraser le PS. Entre les deux morceaux, et il faut dire que ça a relativement bien réussi. Et donc, effectivement, dans l'immédiat, En Marche n'a pas beaucoup d'obstacles, mais ça ne veut pas dire qu'on va vers une sorte de dictature quadragénaire. Je veux dire, dans ce pays, il y a beaucoup de contre-pouvoirs au niveau du Conseil constitutionnel, au niveau de la presse, au niveau des syndicats, etc. Donc, je veux dire, voilà, ça, on ne va pas vers une forme de dictature.
Il ne faut pas s'inquiéter de voir, comme certains le disent, Emmanuel Macron avec les pleins pouvoirs, Laurent Guez.
En tout cas, on a envie plutôt que le gouvernement et le président réforment. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'attends. Et le fait d'avoir les moyens de réformer, ça fait un bon moment qu'on attend ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Le pays est fantastique, il a des ressources extraordinaires, mais dans un merdier à plusieurs égards. Donc là, il faut quand même que les choses avancent, se mettent en marche, pour le coup. Et le fait qu'il ait une majorité tout seul, déjà, sans le MoDem ou sans d'autres, et que, sans doute, les premiers couacs tarderont à arriver, ça nous réserve peut-être un ou deux ans avec des réformes qu'on attend depuis... Je dis le « on » est un peu exagéré, abusif, que moi, personnellement, j'attends depuis longtemps, et qui vont permettre peut-être de retrouver peut-être presque le plein emploi. C'est le drame qui mine ce pays, c'est le problème qui nous flingue depuis 20 ou 30 ans. Il faut s'en sortir de ce problème-là.
Alors, justement, une réforme qui va arriver très vite, la première grande réforme du quinquennat, c'est la réforme du Code du travail, réforme par ordonnance. Pour réformer, le gouvernement doit d'abord faire adopter par le Parlement une loi d'habilitation qui l'autorise donc à légiférer par ordonnance, signée par le président de la République, et c'est mercredi que ce projet de loi d'habilitation sera présenté en Conseil des ministres. Guillaume Goubert, je vous donne la parole parce que vous proposez demain dans La Croix un dossier de 8 pages.
Un dossier spécial,
sur
oui.
Sur cette réforme du Code du travail.
Qui se veut un peu boîte à outils, de façon à ce que nos lecteurs puissent bien voir de quoi il s'agit. Et c'est quand même très complexe. Il y a beaucoup de mots qui sont un peu obscurs, abscons. On sait que ce Code du travail compte plus de 3000 pages, qu'on va y toucher de plusieurs manières. Donc, c'était utile, effectivement, de faire ce dossier spécial.
Et donc demain, parce que là, on entre vraiment dans le vif du sujet sur cette réforme promise par Emmanuel Macron.
Parce qu'effectivement, bon, il y a encore politiquement un événement important mardi avec l'ouverture de la législature, l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Ensuite, le lendemain, Conseil des ministres, et effectivement, on arrive aux travaux pratiques et à quelque chose qui va être dur.
Dans le journal du dimanche aujourd'hui, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dit que certaines propositions des syndicats seront prises en compte. Alban Micosi, est-ce que ça suffira à éviter une contestation d'ampleur peut-être plus importante, comme le redoute sans doute le gouvernement, plus importante que celle autour de la loi El Khomri?
C'est peu probable. La France Insoumise, par exemple, a déjà annoncé que tous ses partisans feraient le nécessaire à l'Assemblée et dans la rue pour s'opposer à beaucoup des modifications qui peuvent être comprises dans le droit du travail. travail dans ce texte. Moi, ça me fait penser quelque chose à la fameuse réforme Hartz en Allemagne, au moment où vraiment un pays voisin d'une autre change complètement son droit du travail. Donc, il faut se souvenir que c'est un gouvernement socialiste, donc progressiste, qui avait emmené cette réforme. Ça a été douloureux en Allemagne. Il y a eu, on s'en souvient pas comme ça parce que l'Allemagne c'est pas un pays de lutte sociale, mais il y a eu des manifestations et de nombreuses manifestations et beaucoup de monde dans la rue. Ça a eu une double conséquence. On peut en parler 10 ans après ou 20 ans après avec un peu de recul. Enfin, en l'occurrence 97, oui, bah 20 ans après. On peut en parler avec un peu de recul. Globalement, ça a été une réussite. Et ça a permis à l'Allemagne, qui à ce moment-là avait un double handicap, elle avait l'Allemagne de l'Est à intégrer, et ça veut dire 15 millions de gens qui n'étaient pas formés, peu formés à l'économie moderne, et ils ont réussi à les intégrer. Politiquement, en revanche, le SPD a perdu sur la réforme Hartz, et depuis le SPD court après le pouvoir.
Et la CDU... d'ailleurs, les sociaux-démocrates tenaient leur congrès aujourd'hui à Dortmund, ils sont très très loin des conservateurs d'Angela Merkel dans les sondages pour les législatives
de
septembre.
Et il semblerait qu'Angela Merkel est encore, alors pour des raisons qui sont diverses, mais encore la probabilité assez forte d'être réélue. La réforme Hartz a fait beaucoup de bien à l'Allemagne et paradoxalement a tué ceux qu'en étaient les meneurs.
Elle a fait du bien à l'Allemagne, c'est ce que vous dites, Alban Micosi. En même temps, via aussi ce que l'on reproche, que les syndicats, la France insoumise dont vous parliez, reprochent à la réforme du Code du travail, une précarisation
grandissante. Il faut bien comprendre ce qu'était la situation en Allemagne à l'époque. Il y avait vraiment deux Allemagnes. Il y avait une Allemagne qui était intégrée au monde, qui était l'Allemagne, la République fédérale allemande, et puis il y avait une Allemagne qui vivait autre chose, qui vivait une économie d'État dans laquelle les entreprises n'étaient absolument plus rentables et qui ne vivait que de l'argent public. Cette Allemagne-là, il a fallu l'intégrer, il a fallu changer les règles. Ça a été très douloureux là-bas. Et ça a fini par porter ses fruits.
Eugénie Bastier.
Oui, sur le fond, moi, vu mes connaissances en économie, je ne prétends pas avoir un avis éclairé sur les mécanismes de cette loi travail. Est-ce qu'ils vont créer ou pas de l'emploi? Je serais bien incapable de vous le dire, mais simplement, j'observe quand même qu'il y a une espèce de consensus et de dogme qui consiste à nous présenter finalement tout ce qui s'est passé en Allemagne comme quelque chose d'absolument formidable, en oubliant peut-être que ça a coûté aussi une précarisation immense, des gens qui sont payés 5 euros de l'heure, qui ont des emplois multiples. Donc, c'est-à-dire que, voilà, on dit le chômage est le problème principal de notre pays, c'est vrai. Simplement, il n'y a pas que ce problème-là. C'est-à-dire qu'un emploi à tout prix, est-ce que c'est forcément une bonne philosophie si des gens sont obligés, voilà, d'avoir des emplois extrêmement précaires? Alors, on va dire, bien, oui, il vaut mieux ça que rien du tout. Oui, mais avec ce genre de logique, on peut aller très très loin. Et donc je regrette que justement, ce ne soit pas l'objet d'un débat public national. Alors on va dire oui, on débat trop, il faut agir, etc. Que ce soit fait sous le sceau de l'urgence et par ordonnance me semble un peu problématique et dangereux, surtout voilà, avec une assemblée un peu godillot qui vote comme ça l'habilitation sans qu'il y ait véritablement de débat sur le fond.
Laurent Guez, vous voulez intervenir? Je vous donne la parole dans une minute, le temps de faire le point sur les dernières infos. Voilà, vous avez le temps de préparer votre intervention. Il est 20h50, le débat continue dans Les Informés. On fait tout de suite le point sur les dernières infos avec Diane Ferchit.
Le siège du Parti Socialiste à Marseille n'est pas à vendre. Jean-Christophe Cambadélis dément ce soir cette rumeur. Le premier secrétaire du PS dénonce des manœuvres spéculatives. Il ajoute que le parti n'a pas de dette et affirme qu'il n'hésitera pas à saisir la justice si de telles allégations perdurent. Marc Fesneau, élu aujourd'hui président du groupe Modem de l'Assemblée nationale, il a emporté les 42 voix des députés centristes lors d'un vote à bulletin secret. Âgé de 46 ans, Marc Fesneau est député du Loir-et-Cher. Il était le seul à briguer la présidence du groupe après l'abandon de l'ex-ministre Marielle de Sarnez. En Espagne, le feu de forêt a atteint le parc naturel de Doñana dans le sud du pays. Plus de 1500 personnes ont dû être évacuées des campings, des hôtels et des résidences de cette zone. Les pompiers sont à pied d'œuvre pour tenter de contenir cet incendie. Il est hors de contrôle actuellement. Une lutte contre le feu compliquée par le vent et les très fortes chaleurs. 8 personnes arrêtées en Colombie. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à l'attentat à la bombe de la semaine dernière. Une attaque qui a coûté la vie à 3 personnes, dont une française, dans un centre commercial de Bogota. Les suspects, 4 hommes et 4 femmes, appartiendraient au mouvement révolutionnaire du peuple, un groupuscule qui a déjà revendiqué d'autres attentats dans la capitale. Et puis en Chine, les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent après l'éboulement qui a englouti un village du Sichuan hier. 93 personnes sont toujours portées disparues, au moins 10 corps ont été retrouvés. C'est un pan de montagne qui s'est détaché en raison de fortes pluies sur la région.
France Info. 20h, 21h, les informés, Simon Le Baron.
Le projet de loi d'habilitation qui doit permettre au gouvernement de réformer le code du travail par ordonnance sera donc présenté mercredi en Conseil des ministres. Laurent Guez, vous avez préparé votre intervention pendant l'info de Diane Ferchi.
Non mais j'ai écouté les infos. Oui. Non, je suis en désaccord total avec ce que vient de dire Eugénie. D'abord, est-ce qu'il faut des emplois à tout prix ? Oui, il faut des emplois à tout prix. C'est ça qu'il nous faut, des emplois. Pas trop payés, moins payés qu'on voudrait, plus précaires qu'on voudrait. Tant pis, il faut du travail. C'est ça dont la France a besoin.
L'Allemagne, c'est facile à dire quand on a un emploi stable.
Mais quand on en a pas, CDI, je crois pas qu'on plaide pour attendre un CDD, un
oui,
CDI
mais c'est assez
pendant des dizaines d'années.
De
non, aujourd'hui les gens qui ont pas de boulot, ils ont besoin d'avoir du boulot. Donc c'est la responsabilité de celui qui défend l'intérêt général que de favoriser la création d'emplois et on fait tout pour la défavoriser dans notre pays. Après oui, l'Allemagne, ça suffit d'imiter l'Allemagne. Moi j'aimerais bien qu'on soit dans la même situation que l'Allemagne. Donc j'en ai assez de cet argument de ça suffit d'imiter l'Allemagne. Elle a des choses qu'elle réussit, pas tout. Sur l'emploi, elle a réussi.
Il y a plus de pauvres en Allemagne. Il y a plus de gens qui vivent en situation de pauvreté.
Mais il vaut mieux avoir un emploi,
il y a pas de salaire minimum en Allemagne,
très riche,
par exemple.
On vous dit avoir juste, des revenus moyens et être au chômage. C'est un sujet qui me paraît mais absolument évident. C'est incroyable qu'on ait encore ces débats en France.
C'est vrai, mais ce qu'on peut dire,
c'est incroyable. Je suis stupéfait.
Juste un mot sur l'Allemagne. L'Allemagne a été une forme. C'est vrai qu'il y a plus de pauvres en Allemagne. Je vous rejoins, mais ça a été une machine à intégrer. Ils ont imaginé ce qu'ils ont eu à gérer dans les 20 dernières années. Ils ont géré l'arrivée de 15 millions de gens dans leur territoire. Et là, ils viennent d'intégrer 1 200 000 réfugiés. On nous avait annoncé la fin du monde. Rappelez-vous, c'était il y a 2 étés. On nous avait dit l'Allemagne ne s'en relèvera jamais, il y aura des bandes dans les rues, etc. Je ne vais pas dire que la situation est idéale, mais sachez que 40% de ces gens ont déjà trouvé un emploi. 40%. Oui, il en reste 60% intégrés, mais c'est quand même le signe d'une
économie. L'économie ne fait pas tout, c'est pas parce
c'est
qu'on a un emploi.
C'est quand même le signe aussi d'une économie qui marche à sa manière.
Vous croyez qu'on peut être heureux si on n'a pas de boulot ?
Non, mais tout le reste vient après.
C'est le premier sujet, c'est d'avoir son autonomie, d'avoir du boulot. Et puis juste, je voulais terminer parce qu'il y avait la question de l'absence de débat que dénonçait Eugénie. Je rêve, je veux dire, d'abord il y a eu le débat du gouvernement précédent qui a été extrêmement long, extrêmement polémique, extrêmement violent d'une certaine manière, et il a eu lieu. Et puis il y a surtout au moins 10 ou 15 ans que les partenaires sociaux discutent de ce satané code du travail qui, quand même, de l'avis de presque tous, sauf des syndicats et notamment de la CGT, est un obstacle à la création d'un job. Les gens de très bonne foi, il faut quand même qu'on s'en convainque que c'est pas de la mauvaise foi, que c'est de la bonne foi, ne peuvent pas créer un job s'ils sont sûrs d'être pris dans une nasse. Après.
On va laisser Eugénie Bastille répondre.
Bien sûr qu'on peut estimer que le Code du travail, il y a quasiment un consensus là-dessus, qu'il faut le réformer. Très bien. Simplement, on a le droit de ne pas célébrer la vitesse et la brutalité avec laquelle c'est fait, et il y a quand même des mesures qui apparaissent problématiques.
Mais on s'indigne de l'inaction.
Il y avait une interview sur le site de France Info, justement, d'un économiste qui signait une tribune, justement, avec des économistes qui sont pas du tout des gauchistes, mais qui dénonçaient de manière assez inquiétante et brutale dont le gouvernement mettait en œuvre cet travail. Et les premières dispositions qui sont apparues dans le monde, il y a des choses, qui peuvent apparaître comme pas forcément justifiées, sur lesquelles on a le droit de débattre et qui ont pas forcément créé de l'emploi. Est-ce que vraiment plafonner les indemnités prud'homales va créer de l'emploi? C'est pas une évidence. Alors, on est d'accord qu'il faut réformer, mais simplement, je m'inquiète d'une espèce de dogmatisme en disant de toute façon c'est la bonne solution, tout le monde le sait, on en est tous convaincus, c'est pas vrai, il y a débat sur les propositions concrètes.
Guillaume Goubert, dans votre dossier Demain dans la Croix, est-ce que vous apportez une réponse à cette question?
On donne des instruments pour mieux comprendre le débat, mais je voudrais juste faire remarquer une chose qui est plus d'ordre tactique que du fond, mais c'est quand même intéressant, c'est que on a beaucoup reproché à la loi El Khomri, à François Hollande, d'avoir engagé cette réforme alors qu'elle ne figurait pas dans son programme initial. Là, ça figure dans le programme initial, les choses ont été très claires et je suis convaincu qu'on va avoir exactement les mêmes débats qu'autour de la loi El Khomri.
Laurent Guez.
Non, mais c'est ce que je crains aussi. En tout cas, c'est un énorme test pour Emmanuel Macron et son gouvernement. C'est un énorme test, puisque c'est le sujet qui a pas été possible, ou presque, pour ce qui concerne Manuel Valls. Ça lui a coûté très très cher. On peut dire François Hollande.
Vous parlez de Manuel Valls, on lui a reproché de passer en force. C'est ce qu'on reproche aussi. Donc Manuel Valls avec le 49-3, on le reproche à Emmanuel Macron avec la réforme par ordonnance. La ministre Muriel Pénicaud dit encore dans le JDD aujourd'hui, cette loi d'habilitation, c'est une loi pas un chèque en blanc, c'est un vrai acte démocratique. Est-ce que...
Non, mais c'est très différent. Il n'y a pas, de frondeur. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas de frondeur. Donc il n'y a pas de 49-3. Il y a une loi d'habilitation qui va être votée. Il y aura beaucoup de protestations en dehors de l'Assemblée. Il y en aura aussi au Sénat. Hein. Il y aura sans doute les coups des franges d'un point de vue institutionnel. C'est dans la rue que les choses vont se jouer. Et c'est pour ça que c'est, à mon avis, un test mais magistral. S'ils se plantent là-dessus... Je ne sais pas ce qui se passe sur le reste du quinquennat.
Tout va aller très vite. On aura l'occasion d'en reparler dans les informés de France Info, puisque cette loi d'habilitation sera donc présentée mercredi en Conseil des ministres, puis devant le Parlement dans le courant du mois de juillet. Et ensuite, on aura les premières dispositions de cette réforme du travail, semble-t-il, dès le mois de septembre. Donc tout va aller très vite. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans les informés de France Info ce soir avec Guillaume Goubert de La Croix, Laurent Guèze du Parisien Magazine, Alban Micosi de France 2, Eugénie Bastier du Figaro et de la revue Limite. Merci beaucoup. 20h58, les informés reviennent demain à 20h avec Jean-Mathieu Pernin sur France Info à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT, sans oublier bien sûr franceinfo.fr. Bonne soirée à tous.